Alô, alô. Alors, nous continuons la suite de nos conférences. Tout à l'heure, nous étions au Niger et maintenant, nous allons parler de la Palestine avec Philippe Michel. Chers amis, approchez. La conférence va commencer. Ah, on attend, hein? On vous attend. Bienvenue les amis, vous qui avez pris la peine de venir nous soutenir et nous assister. C'est l'association Une toile contre un mur, dont le président est Philippe Michel, qui a créé cette association-là dans l'objectif d'apporter un soutien aux enfants de Palestine en vue c'est les enfants de Naplouse, afin d'obtenir l'école du cirque. Voilà, il y a en tout cas de les aider dans différents domaines, dont l'obtention de l'école du cirque. Maintenant, je vais laisser la parole à notre ami Philippe Michel, qui va nous parler de son association, de l'objectif de l'association, du projet associatif et toutes les actions que lui et son association mènent envers les Palestiniens. Merci.
Merci, bonjour. Donc, je vais vous faire une présentation assez brève des deux associations que j'ai créées suite à des missions civiles en Palestine, pour ensuite vous présenter donc un peu un historique du conflit et ce que l'on peut donc mettre derrière le terme de soutien et de solidarité envers la Palestine. Donc, en 2002-2003, donc j'ai fait des missions civiles en Palestine. J'en suis revenu avec une démarche, celle de parler de ce que je voyais. C'est la seule chose qu'on nous demande quand on fait une mission civile, c'est-à-dire on est observateur sur le terrain, on vit avec les Palestiniens, on subit ce qu'ils subissent. Et 2002-2003, c'était la deuxième intifada et c'était extrêmement dur. Et depuis, donc, je fais beaucoup de conférences pour en parler. Donc, il y a 3 semaines, j'étais encore là-bas pour la deuxième association qui s'appelle Aide à la formation des infirmiers en Palestine, que je viens de créer, de façon à aider donc mes collègues infirmiers à avoir une formation permanente et continue, sachant qu'eux ne peuvent pas sortir de Palestine, pour la plupart. Donc, il est plus facile pour nous donc d'aller sur place. Donc, j'ai créé 2 associations. La première, donc Une toile contre un mur, après mes premiers voyages, pour pouvoir parler de la Palestine. Et on s'est donné un projet associatif au bout d'un moment, puisqu'on récoltait quelques fonds en faisant les stands et puis on voulait savoir ce qu'on pouvait en faire. Plutôt que de le donner à de grosses ONG, on a décidé donc d'aider des jeunes de Naplouse qui faisaient un peu de cirque pour égayer les enfants, à obtenir donc leur propre école de cirque, de type surtout professionnel, c'est ce qu'on vise au fil des années. Donc depuis maintenant 5 ans, donc, on envoie des professeurs là-bas. On fait venir des enfants tous les 2 ans. Donc cette année, on espère essayer de faire sortir des enfants de Gaza, ce qui est extrêmement difficile, mais on a appris qu'ils pouvaient maintenant donc, avoir un passeport, donc peut-être sortir. Bien qu'il y a 3 semaines, le consulat de France nous disait que plus personne ne rentrait, plus personne ne sortait, et qu'ils auraient beaucoup de difficultés à nous octroyer des visas, tout simplement parce qu'une fois que les gens sont sortis, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront rentrer, étant bloqués souvent aux frontières de l'Égypte. Mais bon, on a l'espoir, on est déjà arrivé 2 fois de suite à le faire, donc on verra cette année. Donc maintenant, je vais plutôt parler donc effectivement de l'essence même de ce conflit. On en parle tous les jours, il ne se passe pas un jour sans qu'on parle de ça. C'est quelque chose de très complexe, je ne vais pas évoquer ça en l'espace d'une demi-heure pour vous laisser aussi un temps de parole et de questions, mais on va quand même essayer d'apporter des éclaircissements. Donc la solidarité avec le peuple palestinien, donc, c'est un enjeu humain, humanitaire, j'ai mis ou politique, parce que non pas et politique, car là-dedans, il y a tellement de choses qui s'entremêlent que la politique y est automatiquement. Et c'est, la politique étant un terrain extrêmement mouvant, je préfère mettre le terme « ou » que « et ». Donc vous avez une citation d'un jeune Naboulzi qui est extraite d'un livre qui a été édité là-bas à Naplouse. C'est des petits textes des personnes dans leur vécu, du quotidien, etc., il y a 3 ans maintenant. On va démystifier un petit peu beaucoup de choses. Donc, à qui appartient la terre d'Israël ou de Palestine? Sur chaque stand, je rencontre des juifs, généralement, et qui me disent « cette terre nous appartient, on y a été chassés il y a 4000 ans », ou alors, quand on leur dit « c'est pas possible », ben, c'est les Romains qui nous ont chassés, et là, de nouveau, on leur dit « c'est pas possible ». Bon, après, donc, ça devient de l'agressivité. Donc, on va démystifier tout ça. La particularité du peuple juif, comment il a été inventé, d'une religion, comment est-il passé à l'état de peuple, et ce qu'est l'essence même donc, de ce conflit, le sionisme. Donc les premiers habitants étaient les Cananéens, ça n'avait rien à voir avec la religion juive. Donc 4000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ, donc les Cananéens étaient le peuple qui vivait là-bas. Donc maintenant les fouilles archéologiques l'ont démontré. L'État d'Israël qui cherche à récupérer à tout prix donc, l'essence de sa présence avant tous les autres, est obligé de l'admettre. Donc si un seul peuple revendiquait cette terre, c'était donc les Cananéens, et les Cananéens, on sait qu'ils étaient noirs. Donc ça n'a rien à voir, effectivement, donc, avec la race dite juive, puisque là, c'est ce qu'on essaie de nous faire avoir. Donc, les Cananéens, ensuite, ont été, donc, comme tous les peuples vivant sur Terre à ces époques, envahis par des tribus qui se déplaçaient, puisque c'était essentiellement donc, beaucoup de nomades, et on a vécu ça ici en Europe, hein, beaucoup de peuples se déplaçaient, envahissaient un pays, se faisaient admettre, renvoyer, etc. Donc les Cananéens, ensuite, effectivement, ont, à un moment de leur période, été envahis par les Israéliens. Cette époque-là, c'était les Israélites, d'où le nom donc, d'Israéliens actuels. Mais il y avait d'autres particularités dans ce noyage de peuples qui venaient donc, sur ces bords de la mer méditerranéenne. J'espère que vous avez le temps de lire un petit peu les textes qui sont là, que je ne vais pas aller trop vite. Hein, donc je vous laisse quand même un peu lire. Donc c'était un pays d'invasion, mais comme tous les pays à ces époques, tout à fait normal. Donc sur cette carte-là, donc, les noms sont des noms actualisés. Hein. Sichem, c'est la ville de Naplouse, et c'était le nom aussi d'une peuplade. Donc la ville de Naplouse a toujours gardé, par exemple, le nom de Sichem, qui est toujours actuel sur les cartes datant de moins d'un siècle. Donc il y avait 3 peuples qui, jusqu'en l'an 1500 avant Jésus-Christ, se partageaient donc, cette région-là. Les Palestiniens, c'est donc une dénomination très récente. Les gens vivaient donc sur cette terre de Palestine, qui a été appelée Palestine bien après. Après donc la naissance du Christ, cette domination de Palestine est apparue réellement sur les premiers documents. Mais les Arabes et la population juive et arabe de ce pays-là ne se dénominaient pas palestiniens. C'était le nom de la terre. Il n'y avait pas de. C'était partagé entre plusieurs communautés. Il y avait les Israélites. C'était plusieurs petits cantons qui se partageaient cette terre. Et le terme générique de Palestine englobait un espace beaucoup plus grand que la dénomination actuelle. Cette dénomination de Palestiniens est liée surtout donc à Yasser Arafat qui a fait admettre la reconnaissance de ce peuple quand il était à l'ONU avec effectivement donc son pistolet dans la main et en disant donc vous avez le choix effectivement entre la colombe ou l'arme hein, donc et c'est là à partir de là qu'on a accepté le terme de Palestinien par rapport donc aux Arabes vivant donc en Palestine. Donc c'est un terme très très récent qui n'a rien à voir effectivement avec la terre en elle-même au niveau du peuple. Maintenant donc on est beaucoup plus au clair et c'était aussi un débat qui se fait en Israël, pas très peu en France, mais donc par rapport à la dénomination du nom donc que voudrait faire admettre l'État d'Israël, c'est-à-dire le peuple juif. Donc c'était une religion au départ. Maintenant, donc depuis des années, ça fait donc un siècle et demi où cette dénomination de peuple juif est apparue dans les textes. Beaucoup plus maintenant, puisque l'État d'Israël voudrait faire accepter par l'ensemble du monde que c'est la terre d'Israël est dans sa constitution est un État juif pour les juifs. Donc c'est un État théocratique, c'est-à-dire un État maintenu en place par des religieux, à ce moment-là, donc ça leur sera difficile dans leurs relations internationales, eux qui combattent l'Iran comme État théocratique, hein, essentiellement, de faire admettre. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de faire admettre que c'est un peuple juif avec une dénomination spécifique. Ils essaient donc, puisque maintenant on est dans l'ère de l'ADN, de faire intervenir des recherches au niveau de l'ADN. Ça, c'est comme les fouilles archéologiques. On attend encore, effectivement, donc qui le prouvent. Et pourtant, ça va beaucoup plus vite. Donc, pour l'instant, ils sont bien bloqués par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'ils veulent mettre en place une constitution, un État juif pour les Juifs. D'ailleurs, bon, c'est essentiellement donc là-dessus que se font toutes les négociations. Ce peuple, cette domination de peuple, donc, a commencé dans l'essence même avec le sionisme. Le sionisme, c'est quelque chose qui est assez récent. En 1870, premier congrès sioniste, un sioniste à Bâle. C'est une doctrine. C'est vrai qu'à cette époque-là, donc, les Juifs étaient persécutés. Il y avait des pogroms dans les pays de l'Est. Il y a eu ensuite donc, l'affaire Dreyfus en France qui a incitait beaucoup de Juifs à se poser la question, est-il pas temps pour nous maintenant, donc, puisqu'on est dispersés un peu partout, de nous retrouver sur une terre et celle de nos origines. Donc c'est un autre mythe, mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc Theodor Herzl, fondateur du mouvement sioniste, un des fondateurs, il y en avait deux avant lui, a proclamé donc le retour sur une terre qui appartiendrait donc essentiellement, enfin pour, qui réunirait tous les Juifs sous le terme de foyer. Il y avait trois possibilités, donc le retour en Palestine, donc avec comme capitale Jérusalem, puisque c'est de là donc qu'étaient les Juifs d'origine. L'Argentine, pour trouver un pays complètement neutre avec de grands espaces libres, donc plusieurs milliers de colons juifs sont aussi partis en Argentine. Et l'Afrique, où semble que. Bon, je ne me rappelle plus le nom du pays, mais enfin, un des pays avait été choisi, terre très fertile, etc. Mais là, donc, très peu de juifs ont accepté de partir en Afrique, puisque ça ne correspondait pas à leur. À leurs origines. Donc le choix s'est ensuite mis sur la terre de Palestine et donc Israël. Donc Israël s'est surtout construit avec une affirmation donc fausse, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc on va voir effectivement tout ce qui s'est passé au fur et à mesure par rapport à cette dénomination dont on entend toujours donc parler. Donc il y a eu une immigration de masse du peuple juif. Donc tout comme nous, on allait à Jérusalem parce que c'était donc le berceau du christianisme. N'oublions pas qu'on a fait pas mal de croisades là-bas. Donc il y a toujours eu une immigration religieuse, il y a toujours eu des juifs en Palestine qui étaient mélangés à la population autochtone, population donc essentiellement arabe, musulmane, chrétienne et juive pour la plupart. Donc il n'y avait pas de dénomination autre par rapport donc, à ces gens-là. Donc en 1881, début du sionisme, donc, il y avait 25 000 juifs religieux vivant essentiellement donc, dans les grandes villes saintes. Donc Jérusalem, Safed, Tibériade et Hébron, les deux plus grandes villes saintes étant donc Jérusalem et Hébron. Et donc il y a eu ensuite au début du siècle, du 20e siècle, donc des alias, des retours hein, donc, qui continuent actuellement toujours. Donc les premières alias donc, ont envoyé environ 10 000 personnes d'un seul coup s'installer en Palestine. Ces 10 000 immigrants ont été bien accueillis par la population autochtone, dans le sens où les Arabes qui faisaient partie de l'Empire ottoman étaient au courant donc, de ce qui se passait dans les pays de l'Est, notamment donc, en Pologne par rapport aux pogroms. Donc ils savaient que ces gens-là, essentiellement donc, des Polonais, fuyaient pour leur vie et ils ont été très très bien accueillis. Donc ces premiers 10 000 immigrants qui se sont installés ont trouvé des terres qui avaient été achetées donc, à des grands propriétaires terriens et se sont installés sans aucune difficulté. Donc la première alia s'est très très bien passée. La première alia, elle, donc, a augmenté les chiffres de manière considérable. 30 à 40 000 immigrants sont arrivés. Et particularité donc, de ces immigrants, c'est qu'en fin de compte, ils se sont coupés immédiatement de la population arabe et ont commencé donc, à vivre en autarcie la plus complète, en se n'employant pas donc, de fellahs, c'est-à-dire d'ouvriers arabes qui travaillaient sur les terres, où ils étaient avant que les colons arrivent. Donc toutes ces terres où les colons arrivaient n'étaient pas prises aux Arabes. C'était encore l'Empire ottoman qui existait, et donc les terres étaient achetées par le Fonds national juif qui s'était formé, notamment aussi par le baron de Rothschild. Donc toutes ces terres étaient achetées, et quand les immigrants arrivaient, donc, ils étaient envoyés pour cultiver et préparer donc, la venue donc, ensuite de centaines, voire même de millions, puisque c'était prévu donc, dans les accords sionistes, sur ces terres-là. Je recommande un seul livre à lire pour comprendre ce qui se passe actuellement. C'est le livre de Theodor Herz, qui est un tout petit opuscule, qui est tiré d'un article qu'il avait écrit à cette époque, donc 1890, qui s'appelle « L'État des Juifs », où il a décrit tout ce qu'il fallait faire pour conquérir donc, la terre de Palestine et créer le foyer national juif. À cette époque, on ne parlait pas d'État, on parlait de foyer national juif pour que les Juifs donc, se retrouvent entre eux. Et ce que font les dirigeants donc depuis des générations là-bas, les dirigeants israéliens, ce n'est jamais donc l'application de ce petit opuscule, l'État des Juifs. Donc c'est quelque chose qui est concerté au fur et à mesure. Donc on provoque, je dirais, un peu les événements pour pouvoir donc envoyer des immigrants, souvent pauvres, pour pouvoir donc travailler sur place, puisque c'est quand même si c'est pas le désert, la Palestine, hein, c'est une terre très très riche. La Palestine a toujours été le grenier du Proche-Orient et du Moyen-Orient. C'était des terres de Cisjordanie, du lac de Tibériade, sont extrêmement vertes, bien irriguées avec la vallée du Jourdain, etc. Donc c'est pas un désert en soi. Mais Quand les colons arrivaient, ils étaient beaucoup plus proches donc, des bords de mer. Et là, donc, les terres sont beaucoup plus arides que lors de la vallée du Jourdain. Donc on envoyait des pauvres pour justement donc, accaparer ces terres et en même temps essayer de les cultiver. La troisième alia, donc, c'est la partition donc, de la Palestine, c'est-à-dire que l'ancienne ONU, la Chambre des Nations, a décidé effectivement donc, d'octroyer à la France et à l'Angleterre ces terres-là, puisque l'Empire ottoman, donc, sous la pression de l'Europe, commençait à s'effriter. Et la France et l'Angleterre ont vu la richesse qu'il y avait donc, à s'accaparer les terres. Donc tout ce mouvement donc, des alias et les mouvements de la France, de l'Angleterre, etc., correspondent à une époque, c'est-à-dire à une époque où les États pouvaient donc, aller envoyer des troupes dans différents pays et dire « voilà, maintenant, on plante notre drapeau et vous, les habitants, vous faites partie de notre pays ». Ça a toujours existé et à cette époque-là, donc, ça se faisait encore, hein, la France, l'Algérie, le Liban, l'Angleterre a eu pas mal de continuer sa colonisation. Donc ils se sont partagés, les États européens se sont un peu partagés, donc l'Empire ottoman. Et là, donc, la France et l'Angleterre ont hérité de ce, l'ont demandé et on leur a donné donc cette partie du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Donc Syrie, Liban, Jordanie, l'Égypte non malheureusement parce que pour eux, parce que c'était un peuple qui était déjà bien, bien fort, et donc la Palestine. Donc l'Angleterre est là, donc fait face à nouveau, fait face, elle, à une nouvelle immigration. Et là, c'est le début des problèmes à partir de cette troisième alia. Mais ça va aller en s'amplifiant, et, parce que ça arrivait de tous côtés. Donc quatrième alia, 80 000 immigrants. Cinquième alia, donc 180 000. 180 000, ce n'est pas une erreur de frappe, hein. Ensuite, donc, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Personne ne s'attendait donc à la Shoah. Pourtant, donc, Adolf Hitler, en 1936, avait convoqué les ministres de l'Axe, c'est-à-dire donc les États-Unis, la Russie, la France, l'Angleterre et d'autres pays comme l'Espagne. Il avait convoqué donc ces pays-là. Et il leur avait dit qu'il voulait se débarrasser des Juifs. Mais tous ont répondu qu'ils n'en voulaient pas. Bon, la France, on sait pourquoi. Hein, donc l'affaire Dreyfus et autres, il y avait un antisémitisme assez important. L'Angleterre et les États-Unis ont dit qu'eux, ils avaient leur contingent et qu'ils n'en voulaient pas plus. Et donc pratiquement tout le monde s'est défaussé et donc on a laissé Hitler régler lui-même son problème, mais en ne sachant pas effectivement ce qui allait se passer. Donc il y a eu donc au début de la Deuxième Guerre mondiale des immigrants qui sont partis, puisque les Juifs ont pressenti ce qui se passait. Les plus riches ont pu aller donc aux États-Unis, en Angleterre, y compris en France parfois. Et les plus pauvres n'avaient qu'une seule voie de salut correcte en dehors, parce que certains sont montés dans les pays d'Europe de l'Est, etc., et se sont fait rattraper par la guerre. Mais donc beaucoup ont continué à aller donc en Palestine. Donc il y a eu donc là l'immigration a continué. Donc sur cette carte, en récapitulant brièvement, donc, du début du 19e siècle, juste donc 1910, enfin un petit peu avant, et jusqu'à 1945, donc on avait donc déjà 425 000 immigrants qui sont arrivés sur cette terre. Et donc ensuite, l'immigration a continué donc pleinement jusqu'à nos jours. Donc pour vous donner un ordre de grandeur par rapport aux conflits qui se sont mis en place, parce que c'est pas un conflit nouveau, Avant, c'était donc un conflit avec l'immigration juive et les Arabes hein, donc de Palestine, la Palestine dite mandataire, qui n'existait pas en tant qu'entité. Donc en 1944, avec toute cette vague d'immigration, donc, on passe de 115 000 juifs à 554 000 juifs. Et face à eux, donc, il y a 1 179 000 Arabes. Donc on dit dans, avec donc 130 000 chrétiens, qui sont donc généralement des Arabes chrétiens. Donc ça a déclenché naturellement des conflits. Les conflits ont commencé bien avant 1948, ou avant, donc c'était surtout donc, des escarmouches qui avaient lieu donc, entre les Juifs, les Arabes et les Anglais, chacun donc essayant de régler ses conflits avec l'Angleterre. Donc, Lord Allenby, qui avait donc le pouvoir de l'Angleterre sur ce territoire-là, a essayé de se dépatouiller avec ces deux entités, les Juifs sionistes et donc les Arabes qui étaient là. Donc, il y a eu pas mal de conflits qui ont commencé. Donc, 1920, c'était surtout donc, des conflits entre, justement, le fait que les Juifs vivaient entre eux et refusaient de vivre avec la population locale. Le grand reproche que faisaient les Arabes de cette époque, c'était justement, donc, ils créaient plus de chômage puisqu'ils n'embauchaient pas donc, les fellahs, comme je l'ai dit. Donc, si la population s'était mélangée comme elle le faisait bien avant, lors des alias religieuses, puisqu'il y avait toujours eu des juifs, il y avait 126 000, il y a eu quand même 126 000 juifs qui étaient présents, ça ne posait aucun problème. Là, le fait que les immigrants vivent dans leurs fermes fortifiées déjà posait donc des problèmes aux Arabes. Donc, c'était des escarmouches. Ensuite, donc, les Arabes ont essayé donc avec l'Angleterre de régler ce problème. Face à eux, donc il y avait le sionisme. Le sionisme, c'était donc des Arabes cultivés qui venaient de l'Europe. Ça ne veut pas dire que les Arabes de Palestine ne l'étaient pas, mais c'était surtout donc des travailleurs terriens. Ceux qui étaient dans les villes comme Jérusalem, Haïfa, Saint-Jean-d'Acre. Étaient aussi cultivés, mais ils ne représentaient pas la grande masse des Arabes. Donc, face à eux, donc, il y avait une puissance européenne, puisque beaucoup de Juifs donc, étaient à la tête de pouvoir, notamment en Angleterre. Et les concertations donc, leur ont échappé un peu par rapport à ce qui se passait entre leur pays et les instances telles que l'Angleterre et l'ONU. Donc très très vite, ils se sont retrouvés débordés. L'Angleterre s'est trouvée prise à partie donc, dans ce conflit, n'a pas pu s'en dépatouiller. Il y a eu, quand on parle de terrorisme, le terrorisme juif à cette époque était très 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 fort. Les assassinats politiques par rapport donc, aux groupuscules juifs qui formaient des milices et une véritable armée pour se défendre et... essayer donc d'avoir le foyer national juif, hein, qui était encore la dénomination à cette époque. Donc les Arabes, en fin de compte, n'étaient pas bien organisés par rapport à ça, et à chaque fois qu'il y a eu des conflits, ils ont toujours perdu, y compris les conflits politiques face à l'ONU. Quand il y a eu donc la création de l'État d'Israël en 1948, avec les décisions de l'ONU, les Arabes qui étaient partagés entre eux, puisque ce n'était pas un peuple palestinien en soi, donc ont refusé la partition, là où il aurait fallu certainement l'accepter et ensuite combattre, je dirais, sur un plan diplomatique. Ils ont fait une erreur, hein. Mais pouvaient-ils accepter de perdre une grande partie de leur pays comme ça sur une décision à Genève qui ne les concernait pas alors qu'ils étaient donc à plus de 4000 km de là. Donc il y a eu cette fameuse partition de 1947, la première, qui donnait des terres, qui partageait le pays en trois. Donc une terre pour les Arabes, on ne parle pas encore de Palestiniens à cette époque, une terre pour les Juifs et une zone dite internationale qui est Jérusalem, puisque Jérusalem donc, était considérée comme une ville sainte sur laquelle donc, il y avait les trois religions qui étaient représentées, la religion juive avec le mur des lamentations, la religion donc, chrétienne avec la vie du Christ qui se retrouvait donc, dans la ville par rapport à son tombeau, et donc la mosquée Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint donc, des musulmans. Donc Jérusalem était donc déclarée comme ville internationale et en retrait par rapport à cette partition. Donc là, sur cette carte, on voit déjà que la Palestine, telle qu'elle est revendiquée donc, par les Palestiniens, est déjà bien faite, mais une des difficultés, c'est naturellement, c'est que c'est un tronçonnage qui n'est pas viable, avec des zones où que chacun doit franchir pour aller d'un bord à l'autre. C'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Donc les Israéliens, les Juifs de l'époque, donc, qui n'étaient pas encore les Israéliens, les Juifs de l'époque, donc, ont accepté cette partition, ça a été refusé donc, par par les composantes arabes, mais tout en disant de toute façon que ça ne pouvait pas jouer, puisque se voyait mal devoir traverser des terres arabes pour passer d'un canton à l'autre. Il y a eu, donc, suite à cette partition, la première guerre arabe, vraie guerre en soi, c'est-à-dire que ce n'était plus des escarmouches, là c'était une guerre avec des pays qui se liguaient ensemble pour combattre les Juifs. Donc c'est la première des guerres du monde arabe qui s'est faite suite à la déclaration donc, de 1948 par rapport à ça. C'est ce que l'on retrouve dans cette époque risque de se retrouver, on en parlera un peu peut-être après, actuellement quand on parle de guerre civile hein, au niveau donc, de la Palestine. Il y a eu d'énormes conflits entre les différents pays arabes pour savoir ce que l'on faisait, si on s'engageait, etc. Le roi de Jordanie avait pris fait et cause pour l'État d'Israël parce qu'ils y voyaient plus d'avantages. Ils étaient européens, ils amenaient beaucoup d'argent, parce que pour la construction de cet État, donc, l'argent affluait à fond. Donc les Jordaniens avaient plus d'avantages à avoir un voisin riche, donc, et s'étaient alliés donc, aux Juifs à cette époque. La Syrie, le Liban, qui était sous domination française, était plutôt contre l'Angleterre, mais c'était atavique. On a toujours eu comme voisin anglais des problèmes. Donc, en fin de compte, la France était bien contente si elle pouvait foutre un petit peu le bordel là-dedans, et ainsi de suite. Donc, il en est resté des traces dans ces premiers conflits de 47, ensuite 48, qui est la Nakba pour les Palestiniens. Cette guerre de 48 laisse des traces simplement parce que 800 000, à peu près entre 600 et 800 000 Palestiniens ont été chassés de leurs terres dans cette guerre-là. 540 villages à peu près ont été complètement rasés, mais ce qu'on appelle rasés, c'est-à-dire où il ne restait plus que des pierres à même le sol. Certains ont été immédiatement donc pris par les colons qui s'y sont installés parce qu'il y avait donc pas mal de richesses. Et surtout, si les villages étaient rasés, c'était pour empêcher les Palestiniens de pouvoir revenir, les Arabes de pouvoir revenir. Et en même temps, donc, il y a eu beaucoup donc, de civils tués. Donc il y a eu pas mal de massacres des deux côtés, il faut le reconnaître. Mais bon, beaucoup plus de la population dans la population arabe, les massacres de Deir Yassin, etc. Tout simplement parce que tous les Israéliens, enfin, les Juifs de cette époque, parlons pas encore d'Israël, tous les Juifs de cette époque donc, étaient armés et suffisamment bien entraînés, et c'était donc une armée bien organisée, donc avec des plans, Ben Gurion, etc., donc avait bien organisé, c'était vraiment un plan très très bien organisé. Donc les Arabes, face à l'annonce de certains massacres, lorsque l'armée juive arrivait dans les villages, tuait pas mal d'hommes pour les inciter à partir, etc. Donc on fuit pour beaucoup en masse. Donc, rappelez-vous, il y avait 1 137 000 Arabes. Donc il y en a plus de entre 600 et 800 000, donc beaucoup plus de la moitié, les trois quarts presque, qui ont dû fuir. Donc la Nakba a laissé une trace et la laisse encore, c'est-à-dire qu'effectivement, donc actuellement, il y a une forte diaspora qui est non plus juive, qui reste, hein, la diaspora juive reste, parce qu'effectivement, tous les juifs n'ont pas envie de venir en Israël. Mais la diaspora palestinienne, donc maintenant, donc, s'est constituée et a fui donc, au Liban, en Syrie, dans les pays arabes à côté, en Jordanie et en Égypte. L'Égypte, donc, comme vous l'avez vu sur la carte avec la partition, qui avait toute la bande de Gaza à sa disposition en principe et qui doit officiellement donc, en principe, lui appartenait. Donc cette Nakba fut particulièrement dure pour les Palestiniens. Certains ont voulu donc rester, d'autres ont été mis dans des camps de réfugiés. C'était des vrais camps, donc des camps de toile. Malheureusement, j'avais mis beaucoup de photos, mais pour que ça puisse passer, j'étais obligé d'en enlever. Mais c'est vrai que c'était des camps de toile. Ils étaient donc sous mandat de l'ONU, ces réfugiés de 48, et ils le sont toujours depuis donc 1948, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Si Israël veut bien leur en donner, c'est une faveur. Ils ont juste un laissez-passer de l'ONU qui ne les autorise même pas à voyager. Et ils sont toujours ravitaillés dans les camps par l'ONU, et quand vous allez en Palestine, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, vous avez toujours les véhicules de l'UNWAR, UNWAR, donc, qui était la première agence officielle chargée donc, des réfugiés. Elle a été mise en place pour les Palestiniens et elle continue à exister, bien que les États-Unis aimeraient qu'elle puisse disparaître parce que ça mettrait fin donc, à quelque chose de symbolique. Tout simplement parce que Jérusalem-Est est toujours considéré comme palestinien et l'ONU donc, a ses bureaux officiels à Jérusalem-Est avec ses voitures, donc ça fait quand même tache dans le paysage israélien. Les réfugiés de 48 donc, sont toujours sous dépendance de l'ONU, y compris actuellement, donc dans des camps qui ne peuvent pas s'agrandir, ce qui fait que depuis 1948, la population a quintuplé pratiquement. Donc les camps, les surfaces des camps ne peuvent pas s'agrandir, donc les maisons ont grandi, on a pris sur l'espace des rues, donc souvent c'est des toutes petites ruelles qui font moins d'un mètre de large, parce que les gens ont grignoté pour agrandir un peu les maisons, etc. Ils essaient de tricher, donc, puisqu'en principe ils n'ont pas le droit de sortir des camps, mais bon, quand vous êtes dans une ville comme Naplouse ou Nazareth, l'autorité israélienne ne va pas contrôler si vous habitez dans la vieille ville de Naplouse, etc., sauf dans des périodes très, très difficiles comme la 2002-2003, où là, donc, l'armée rentrait partout, vérifiait et arrêtait donc, les gens. Mais donc, depuis ces gens vivent dans des conditions toujours aussi difficiles. Hein. Donc, alors, il faut que je mette juste mes lunettes. Le temps, ouais, je sais, je suis bavard. Donc actuellement, donc voilà la partition de ce qu'il en est donc, de la terre d'Israël et de la terre de Palestine. Sur ces cartes, donc on voit depuis 60 ans donc ce qu'il en reste de l'État palestinien, donc des petits îlots qui sont coupés. Et j'ai une carte de l'ONU que j'ai ramenée il y a 3 semaines, qui est sur le stand derrière la carte, l'ancienne carte du Philistin. Il y a la carte de l'ONU actuelle, vous pourrez voir la partition de ce qu'il en est de cette Palestine. Donc l'État d'Israël repose donc sur une colonisation identique à celui de l'Afrique, hein, l'Afrique du Sud. Hein, ce sont des migrants. L'Afrique du Sud, c'était des migrants donc, qui venaient d'Europe, qui ont colonisé donc, cette terre-là. Et ce n'était pas des États qui en colonisaient. Qui s'approprie donc la terre en chassant donc le peuple autochtone par tous les moyens possibles. Et c'est toujours donc de rigueur actuellement. La solidarité avec les Palestiniens, bon, on choisit son camp, ça c'est sûr. On a beaucoup plus de critiques quand on choisit le camp palestinien que le camp israélien. Je serais accueilli avec plus d'honneur à l'aéroport de Tel Aviv si je dis que je viens effectivement pour la gloire de l'État d'Israël. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive pour aller en Palestine, on est obligé de passer par l'État d'Israël ou par la Jordanie, donc ça coûte beaucoup plus cher, etc. Mais donc le visa nous est accordé, donc quand on arrive là-bas, on peut être envoyé illico presto, c'est ce qui a failli arriver à la collègue qui était avec moi dernièrement. Elle est donc d'origine algérienne, double nationale. Elle a un nom qui est Khaled, donc Khaled là-bas c'est un nom typiquement arabe et qu'on trouve beaucoup donc, dans les territoires. Et elle a eu donc 4 heures d'interrogatoire par les services de sécurité, elle a failli être envoyée, elle a eu de la chance simplement parce que moi j'avais le visa, puis j'avais pris sa valise et puis j'étais de l'autre côté déjà, donc ils ne pouvaient pas la renvoyer comme ça. Donc à un moment donné, comme j'ai téléphoné, ils ont eu vraiment, donc je l'attendais. Bon, elle a pu passer. Elle a eu 4 heures d'interrogatoire, ce qui est lourd. Et elle a eu une fouille complète au retour, comme ça, juste d'humiliation. Mais bon, ça, c'est la norme pour beaucoup de non-blancs qui n'ont pas le profil. Donc, l'ONU, on en a parlé. Donc, la solidarité internationale avec l'ONU, c'est vite vu. Beaucoup de résolutions, hein. Donc plus d'une quarantaine, parce que ça s'annonce chaque fois, jamais donc tenu. Israël en fait ce qu'elle en veut, c'est-à-dire qu'elle les prend, elle les met à la poubelle. Donc maintenant l'État d'Israël parle de paix contre paix, avant c'était terre contre paix. Maintenant, donc y compris avec la Syrie, le plateau du Golan que Israël s'est annexé, Israël ne parle plus que de paix contre paix. C'est-à-dire que si vous voulez la paix, on ne parle plus de terre et vous aurez la paix. Si vous voulez pas ça, vous n'aurez rien. Donc c'est-à-dire qu'Israël garde les terres qu'elle s'est octroyées, donc, y compris certainement donc, en Cisjordanie. Hein. On en est là. Les États-Unis, donc bon, actuellement tout le monde est à l'écoute du nouveau président. Barack Obama fera-t-il mieux que tous les autres avant ? Il nous a donné des signes assez forts pour nous, donc qui nous occupons un peu de ça par rapport à ce qu'on y vit. Effectivement, en remettant son rapporteur général, George Mitchell, qui était donc un rapporteur déjà donc, il y a 4 ans en arrière, qui avait fait un excellent rapport en disant que la paix ne pourra se faire que lorsque la colonisation s'est arrêtée. Il a été descendu en flamme aux États-Unis par le congressionniste, etc. C'est un geste fort que Barack Obama le remette pour s'occuper de ce conflit, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un déjà qui connaît, c'est quelqu'un qui a subi toutes les pressions nécessaires, etc. Alors on les laisse travailler tranquille, on attend. Là, la rencontre Netanyahu-Barack Obama, semble-t-il, on met toujours au conditionnel, parce que comme on n'était pas avec eux dans le bureau, on ne va pas savoir exactement ce qui se dit, mais semble-t-il quand même bon, que Barack Obama maintienne sa position de 2 États. Mais bon, pour nous, 2 États, qu'est-ce que ça veut dire ? En attendant, donc, le grignotage des terres se poursuit en Cisjordanie tous les jours. Donc, de nouvelles colonies sont annoncées presque chaque jour maintenant par l'État d'Israël. Pour les États-Unis, statu quo pour l'instant, on espère, mais depuis le temps qu'on espère dans ce conflit. L'Europe, il n'y a pas de problème. L'Europe est pro-Israël. Donc notre président, lorsqu'il était président de la communauté européenne, a fait passer en force le partenariat renforcé avec l'État d'Israël, alors qu'avec la Turquie, dont on nous parle encore concernant les prochaines élections européennes, on nous rebalance la Turquie et les droits de l'homme, etc. Et la Turquie, alors à côté de l'État d'Israël et des droits de l'homme, je vous assure que ça n'a rien à voir, hein. Même si c'est un régime qui est peut-être un peu dur, mais au niveau du respect des droits de l'homme, la Turquie fait beaucoup plus d'efforts actuellement que l'État d'Israël. Mais bon, L'Israël fait partie, de toute façon, de la communauté européenne, de facto déjà. Donc, fait partie de la Coupe d'Europe de foot, fait partie de la Coupe de l'Eurovision de la chanson, etc. Enfin, elle est dans toutes les manifestations. Elle fait partie de toutes les commissions maintenant que Nicolas Sarkozy donc, a renforcé ce partenariat dans toutes les commissions avec un droit de veto sur tout ce qui se dit au niveau de la Commission européenne à Bruxelles. Donc c'est quand même pas mal. Les pays arabes, c'est vite vu, l'Égypte reçoit 2 milliards de dollars pour sa police et son armée. Si l'Égypte, par rapport avec les États-Unis, si l'Égypte décidait donc de soutenir beaucoup plus l'État d'Israël, enfin beaucoup plus les Palestiniens et les autres pays arabes contre l'État d'Israël, on supprime 2 milliards de dollars qui correspondent au salaire de l'armée et de la police. Je ne vois pas le bordel qu'il va y avoir au Caire. Déjà que l'Égypte a du mal à maintenir sa population. Donc, la Jordanie, 60% de Palestiniens qui n'ont pas les mêmes droits que les Jordaniens. C'est, comme je l'ai dit, donc la Jordanie s'est très, très tôt donc, placée avec l'État d'Israël par rapport effectivement à des financements. Elle est soutenue donc, par la CIA depuis des années et des années, puisque le roi de Jordanie, le père du fils actuel, faisait partie de la CIA et travaillait, donc, ça c'est officiel, c'était des documents déclassés, etc. Ça n'en est rien de secret. C'est pas autre chose qu'effectivement une information. Mais il y a des liens très très proches entre la Jordanie et les États-Unis et Israël. Et là, c'est pareil, de toute façon, tout simplement parce que si le roi Abdallah bouge un doigt, il y a de l'argent. Et en même temps, 60% de Palestiniens chez lui, sans compter donc tous les immigrés, parce que c'est un tout petit peuple, hein, les Jordaniens, ça craquerait très très vite. Donc, rien à attendre de ce côté-là. La Syrie, dernièrement, donc, avait construit une centrale nucléaire. Israël n'a pas hésité à la bombarder et personne n'a crié haut et fort que c'était inadmissible. On a trouvé normal que l'État d'Israël bombarde une centrale nucléaire qui devait, je mets entre parenthèses, on s'entend, hein, devait servir à produire de l'électricité. Pour Israël, c'était pour faire une bombe atomique. Israël a 120 têtes nucléaires officielles. C'est risible à côté. La Syrie, dès qu'elle bouge le doigt, elle est bombardée et personne ne dit rien. Et ils cherchent à se rapprocher de plus en plus près des États-Unis aussi dans le but d'enlever l'embargo qui pèse dessus. Hein. Donc la Syrie fait des efforts actuellement pour avoir des... pour se mettre aux normes. Donc les Palestiniens n'ont rien à attendre de plus. Le Liban, bon, il y a le Hezbollah, effectivement. C'est un pays qui est toujours sous forte tension donc, avec l'État d'Israël. Il va y avoir de prochaines élections. On va attendre déjà un petit peu pour voir ce qui va en sortir. Beaucoup de réfugiés palestiniens dans des camps de réfugiés du même type que ceux que l'on trouve en Palestine, sans droit, c'est-à-dire qu'ils ont... ils ne peuvent pas avoir les mêmes droits que les Libanais. Et c'est beaucoup de métiers leur sont donc refusés. Donc une paupérisation très très importante des Palestiniens. Donc c'est aussi une poudrière au Liban, qu'on le veuille ou non. Le Liban est en guerre régulière contre l'État d'Israël. Ça c'est la guerre de l'eau. La guerre de l'eau c'est ce qui maintient donc... tout le Proche-Orient en évidence. C'est-à-dire que ces régions-là, il y a très peu d'eau. Et en même temps, beaucoup d'eau. Très peu d'eau parce qu'il pleut que d'octobre à mars, avril maximum. Et le reste du temps, il fait très chaud. Il y a d'énormes nappes phréatiques, mais les fleuves de montagne qui viennent du Liban, de la Litanie ou du plateau du Golan qu'Israël s'est annexé, donc ne peuvent pas abreuver la montée exponentielle de la population de ces différents pays et surtout de l'État d'Israël. Donc le Liban, Israël lorgne sur la Litanie, qui est un fleuve qui coule pas très loin, mais malheureusement, la Litanie ne va pas jusqu'en Israël. Donc ils ne peuvent pas capter ces eaux, donc d'où les différentes guerres du Liban ont eu lieu, effectivement, à chaque fois, pour essayer de se capter la Litanie, quelles que soient les excuses avancées. Et ce qui a surtout donc fait sourciller les observateurs, c'est qu'en 2006, la dernière guerre du Liban, Le Liban venait effectivement d'annoncer que maintenant, donc il venait de reconstruire tous les complexes hôteliers, etc. Les ports étaient opérationnels et qu'au niveau touristique, ils annonçaient des chiffres faramineux et ils ont été bombardés donc en plein mois d'été. Et puis bombardés hein, de nouveau, donc on se retrouve 50 ans en arrière avec des tas de ruines. Les Libanais de la région peuvent assurer qu'ils ont leur maison secondaire là-bas. Beaucoup ont pleuré de voir les destructions de leur maison. L'Irak, sans parler de l'Iran, que je laisse de côté, mais l'Irak, donc, ça a été un signal fort pour tous les pays arabes du Proche-Orient, c'est-à-dire, si vous bougez, bon, ben, vous voyez ce qu'on peut faire sans aucun problème. Personne ne lèvera le petit doigt pour vous défendre si on a envie, nous, de... Donc, en dehors de l'Iran, pour l'instant, qui je mets de côté, puisque on n'en sait rien, en fin de compte. Hein. Donc, pour l'instant... Donc en Israël, il y a pas mal d'associations, donc il y a beaucoup d'associations israéliennes, mais ça représente un petit pourcentage, hein, quelques pourcents. Il y a beaucoup d'associations, mais par rapport à la population, c'est quelques pourcents qui militent pour la paix. Et les voix donc, ont du mal à se faire entendre, à chaque fois elles sont bâillonnées. Hein. Donc il y a des noms que vous connaissez, Daniel Barenboim, Ilan Pappé pour ceux qui Gideon Lévy. En France, on a l'UJFP, l'Union française pour la paix, qui est très, très volontariste vraiment pour se battre pour cette paix au Proche-Orient. Les associations de femmes sont celles qui, comme les femmes en noir, manifestent de plus en plus régulièrement et vont dans les territoires occupés, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Israéliens donc, n'ont pas le droit d'aller de l'autre côté du mur en Palestine, donc en Cisjordanie ou à Gaza. Amira Haas, qui était la dernière journaliste à être encore à Gaza, s'est vue interdire militairement le retour donc, à Gaza, alors que c'était la dernière pratiquement journaliste juive qui couvrait le conflit côté Gaza. Donc là, cette semaine, elle a été interdite. Et les Israéliens n'ont pas le droit d'aller de l'autre côté du mur, donc ils sont obligés de manifester donc, en Israël, avec la pression effectivement donc, des juifs d'Israël. Sinon, donc, ils ont de fortes amendes et de la prison. Jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule femme qui a été condamnée à la prison. Mais bon, c'est toujours quelque chose qu'on a du mal à transgresser. Hein. Les ONG, il y a beaucoup d'ONG en Palestine. Il y en a pléthore. C'est pas un pays pauvre. Chaque fois, on me dit, mais c'est des pauvres palestiniens. Non, ils sont pas pauvres. Ils mangent à leur faim. Il y a de tout. Il y a de l'argent. Mais l'argent ne va pas nécessairement aux pauvres. Ça, tout le monde le sait. Ça a toujours été détourné, donc Yasser Arafat, il y a eu ses affaires, Mahmoud Abbas, c'est exactement pareil. Les ONG en profitent énormément pour s'installer sur place, que je parle des ONG assez conséquentes, et notamment j'ai appris que par exemple, une ONG pour la faim dans le monde était représentée à Ramallah, je ne vois pas du tout ce qu'elle a à y faire. En tout cas, en Cisjordanie, les enfants... mangent à leur faim, il n'y a pas de carence, etc. Par contre, à Gaza, qui est enfermé depuis 2 ans, où tout rentre au compte-gouttes, oui, là, on sait qu'il y a des carences alimentaires, mais cette ONG n'y peut rien, puisque de toute façon, il n'y a que l'UNOIR, l'ONU, qui peut ravitailler la plupart du temps, ou les tunnels qu'Israël bombarde de manière très, très régulière. Mais les tunnels, c'est la seule possibilité de faire rentrer le gaz, l'essence pour les réchauds, et l'ensemble des vivres venant, donc... d'Égypte. Donc, ouais, il y a beaucoup donc d'associations. Ensuite, donc les associations militantes, c'est les associations donc dites missions civiles. Il y en a très peu. Hein. Il y en a 3 grandes campagnes, les CCIPP, campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien, qu'on retrouve maintenant dans presque tous les pays d'Europe, initiée par José Bové quand il était là-bas. Il avait fait la promesse à Yasser Arafat qu'il y aurait toujours une mission civile qui serait présente. En Palestine, les comités urgence Palestine, dont un qui se trouve à Genève, qui envoie donc des observateurs sur place. Et puis la FPS, l'association France-Palestine Solidarité. Ensuite, donc il y a toutes les associations loi 1901, comme la mienne, etc. Là, on est quand même des petites associations, une bonne petite centaine sur la France. Voilà, donc c'est un conflit, effectivement, donc, qui est humain, vous l'avez vu, puisque le but, c'est une colonisation. Donc qui dit colonisation dit qu'on prend les terres des autres, on les chasse, etc. Voilà. Ça y est, c'est l'heure. humanitaire, parce que c'est donc les Palestiniens se retrouvent maintenant dans des ghettos, enfermés dans des ghettos, y compris en Cisjordanie. On me dit Cisjordanie, c'est plus facile, non ? Les grandes villes sont bouclées, donc si vous habitez à Ramallah, que vous voulez à Naplouse, il vous faut une autorisation militaire pour ne passer de cette ville, qui sont distantes d'une heure et demie en voiture, deux heures maximum. Et si vous n'avez pas cette autorisation, à tout moment vous pouvez être arrêté par des barrages fixes ou routiers, flottants, etc. à tout moment. Donc pour aller n'importe quel coin de Cisjordanie, vous avez besoin d'autorisation. Si vous ne les avez pas, vous prenez le risque de vous retrouver en prison actuellement. Donc il y a 1000 Palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes pour des délits de ce type-là. On les oublie de manière récurrente. Voilà, donc si vous avez des questions, on a 2 minutes.
Voilà, donc merci Philippe de nous avoir mis dans le bain de l'histoire de la Palestine et d'Israël. Vu qu'on est un peu tenu par le temps, pour les questions, je vous invite à rejoindre Philippe sur son stand. Et là-bas, vous découvrirez tout le travail qu'il fait, parce qu'on est aussi ici pour parler de la solidarité. Et il a parlé de l'histoire de ce peuple qui souffre, mais aussi, il a pas eu le temps, parce que c'est tellement passionnant, il n'a pas eu le temps de nous parler de son œuvre à lui, qui est aussi grande, que je vous invite à découvrir sur son stand et à lui poser des questions par rapport à ce qu'il fait et par rapport à son projet associatif. Donc, chers amis, je vous remercie. Dans une vingtaine de minutes, on aura une autre conférence avec Amnesty International, mais je vous laisse le temps d'aller boire un verre et de nous retrouver tout à l'heure dans quelques minutes. Merci.